Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, beaucoup de pères de l'Église ont abondamment commenté cet évangile d'aujourd'hui. Et ils disent, en recoupant d'autres textes similaires des autres évangiles, que ce grand banquet, en fait, était donné à l'occasion d'un mariage. Alors, il est intéressant de voir que tous les pères en parlent un peu de la même façon. Ils voient trois symboles dans ce mariage. Pas un seul, mais trois. Le premier, disent-ils, c'est ce mariage symbolise le mariage de notre Seigneur Jésus-Christ, le mariage mystique, entre notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Ce mariage entre la Très Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que la Très Sainte Vierge Marie devient épouse mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Par le mystère de l'incarnation. Et c'est pas pour rien, encore une fois, que l'Église a choisi ce deuxième dimanche après la Pentecôte, qui est dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement, comme préface, justement la préface de la Nativité, pour bien marquer ce rappel. Le deuxième symbole de ce mariage, disent les pères, c'est aussi un mariage mystique entre notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. L'Église étant épouse mystique de notre Seigneur Jésus-Christ aussi, pour que notre Seigneur Jésus-Christ se continue en quelque sorte ici-bas sur la terre par l'intermédiaire de son Église. Et donc c'est aussi un mariage, de même qu'il y a un mariage qui unit notre Seigneur Jésus-Christ dans sa divinité avec notre humanité dans le sein de notre Sainte Vierge Marie. De la même façon, il y a une union entre notre Seigneur Jésus-Christ et son corps mystique continué ici-bas sur la terre par son Église. Troisième symbole que voient les pères, c'est le symbole d'un mariage, cette fois-ci qui n'est pas vraiment un mariage dans le sens que, dans le sens mystique, le mariage est quelque chose de permanent. Eh bien, cette troisième union, c'est l'union de notre Seigneur Jésus-Christ avec une âme, chacune de nos âmes, l'âme d'un baptisé catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ ne s'unit pas à toutes les âmes, contrairement à ce que les modernes racontent. Notre Seigneur Jésus-Christ s'unit à une âme qui est capable de le recevoir. Ce qui nous rend capable de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le baptême. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut avoir ce troisième mariage mystique qu'avec les âmes baptisées. Et ce mariage, en fait, correspond plus à des fiançailles mystiques qu'à un mariage. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce mariage, nous pouvons le rompre. Une âme baptisée peut perdre notre Seigneur Jésus-Christ par le péché mortel. Et donc à ce moment-là, ce mariage est rompu. C'est pour ça qu'on parle plus de fiançailles mystiques que de mariage mystique pour ce troisième symbole. Et je crois que c'est important de bien comprendre ces choses-là. Donc il y a un mariage, soit notre Seigneur Jésus-Christ avec notre humanité, par le mystère de l'incarnation, soit le rappel de l'union entre Seigneur Jésus-Christ avec son Église, soit le rappel de l'union entre Seigneur Jésus-Christ avec chacun d'entre nous quand nous sommes en état de grâce. À ce mariage, nous sommes tous conviés d'une façon ou d'une autre. Et donc la deuxième image qui transparaît par cet évangile d'aujourd'hui, c'est l'image du banquet qui suit le mariage. Banquet ayant lieu après le mariage et pas pendant. Eh bien, ce banquet, il y a un autre symbole là qui est très très beau. Ce banquet représente le mystère de la Sainte Eucharistie. C'est pour ça que ce texte a été choisi par la Sainte Église, parce que nous sommes dans l'octave de la fête de Dieu, donc de la fête du Très-Saint-Sacrement. Et là, pour cette invitation au banquet, il y a des conditions qui ne sont pas exprimées dans l'idée même du mariage que j'ai expliqué auparavant. Pourquoi? Parce que quand on baptise un enfant, par exemple, il n'y a pas de conditions pour l'enfant lui-même. Il y a des conditions pour les parents qui doivent s'engager à ce que l'enfant reçoive une éducation catholique, mais il n'y a pas de conditions pour l'enfant, le bébé lui-même. Par contre, là, pour venir au banquet qui suit le mariage, il y a des conditions. La première condition, dans d'autres textes similaires, c'est d'avoir l'habit nuptial. L'habit nuptial, ce n'est pas le baptême, contrairement à ce que certaines personnes disent. Cet habit nuptial, c'est justement l'état de grâce. Et si on n'a pas l'habit nuptial, on ne peut pas rentrer dans le banquet. On ne peut pas participer au banquet plus exactement. C'est pour ça que le maître, avant de commencer le banquet, rentre dans la salle du banquet, dans la salle du festin, pour vérifier que tous ceux qui sont invités à ce banquet ont bien la robe nuptiale, l'habit nuptial, c'est-à-dire l'état de grâce. S'il n'y a pas l'état de grâce, ils ne peuvent pas participer à ce banquet. Pourquoi? Parce que ce banquet, d'après les pères de l'Église, représente le très saint sacrement. La participation directe à notre Seigneur Jésus-Christ dans son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est vraiment un banquet mystique qui suit le mariage mystique. Encore une fois, on ne peut pas participer au banquet mystique si on n'a pas participé d'abord au mariage mystique, c'est-à-dire si on n'est pas baptisé, il n'est pas question de communier, bien entendu. Et l'évangile d'aujourd'hui rappelle aussi trois choses importantes. C'est très intéressant chez les pères. Ils analysent justement les excuses qu'ont données les invités pour ne pas venir au mariage. Et ce qui fait que le maître du banquet a dû envoyer ses serviteurs pour aller chercher d'autres invités. Bien sûr, il y a le thème général qui revient très fréquemment chez les pères de l'Église, comme quoi les premiers invités, c'était le peuple juif, qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, refusé de voir l'accomplissement de toutes les prophéties, refusé de voir ses miracles, qui ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ en le crucifiant, et donc ils ont été rejetés de la promesse divine, le voile du temple se déchire en deux pour bien montrer que c'est la fin de l'Ancien Testament et le début d'une nouvelle ère où le peuple des catholiques va remplacer le peuple des juifs. C'est une image qui est très 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 fréquente chez les pères. Une réalité très fréquente, expliquée très fréquemment par les pères. Mais pour les gens qui vont remplacer le peuple juif, il y a des conditions. Et l'évangile d'aujourd'hui explique trois excuses données par les gens. La première, c'est que certains se sont mariés. La deuxième excuse, c'est qu'ils ont acheté 5 paires de bœufs. Et la troisième excuse, qu'ils ont acheté une terre et qu'il faut qu'ils aillent la voir. Eh bien, les pères de l'Église expliquent que cela représente les trois concupiscences. La terre qui vient d'être achetée, qui est à voir, c'est la concupiscence des yeux, le désir de tout avoir. Donc, on a de l'argent, on achète des choses, on veut tout posséder, et donc c'est possession de toutes les choses matérielles, mais le bon Dieu est dehors littéralement notre âme, et on ne peut plus posséder notre Seigneur Jésus-Christ parce que notre âme est remplie de choses matérielles. C'est la concupiscence des yeux qui va entraîner cet esprit de jouissance absolument frénétique dans lequel le monde moderne s'est jeté à corps perdu. La deuxième explication des pères, une autre excuse qu'on a tendance à utiliser pour ne pas s'approcher du Saint-Sacrement, c'est tous les plaisirs de la chair, qui est représenté par la phrase dans l'Évangile qui dit que ces invités n'en vont pas venir au festin parce qu'ils viennent de se marier. Ça, c'est évidemment la concupiscence de la chair et tous les péchés qui tournent autour du contre le sixième et neuvième commandement. Et la troisième excuse, évidemment, je n'ai pas de mémoire aujourd'hui. Troisième excuse, ce sont les 5 paires de bœufs. Donc les gens ont acheté 5 paires de bœufs, vont les essayer. Les pères d'Église expliquent que ces paires de bœufs, le bœuf, représente l'orgueil. La force du bœuf qui est sûre de lui représente l'orgueil. Et donc c'est la troisième concupiscence. Et donc, pour pouvoir s'approcher du banquet sacré, la Sainte Eucharistie, il faut d'une part être en état de grâce, c'est-à-dire avoir la vie nuptiale, mais en même temps avoir chassé de notre âme les trois concupiscences, et l'orgueil, et la concupiscence des yeux, et la concupiscence de la chair. Et à ce moment-là, nous pouvons nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ et nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Messe, qui nous permet justement d'approcher de la Sainte Eucharistie et en quelque sorte d'unir notre humanité avec notre divinité, un peu comme notre Sainte Vierge Marie a uni son humanité avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par le mystère de l'Incarnation. Alors comment les pères de l'Église expliquent de façon magnifique justement ce banquet. Alors, il faut faire attention, justement, de bien vérifier, avant de s'approcher du banquet sacré, de bien vérifier qu'on a l'habit nuptial sur nous, c'est-à-dire qu'on est en état de grâce. C'est pour ça que Saint Paul nous dit bien que celui qui s'approche de ce banquet nuptial et qui mange et boit le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ indignement, boit et mange sa propre condamnation. Donc, c'est C'est la communion sacrée, justement, un des péchés les plus graves qu'on puisse commettre. Cependant, attention, il ne faut pas non plus tomber dans le scrupule. À partir du moment où on est en état de grâce, donc il faut communier, on a le devoir de communier pour justement, en quelque sorte, remplir le réservoir spirituel qui est le nôtre, de cette énergie spirituelle dont nous avons besoin pour maintenir pendant toute la semaine, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir à la messe en semaine, ce qui est souvent le cas, pour maintenir en nous la force pour rejeter les trois concupiscences de l'orgueil, des yeux et de la chair. Parce qu'on sera toujours tenté, si vous voulez, le monde moderne est tenté de mettre dans notre âme, dans notre esprit, dans notre intelligence, ses excuses. Soit la terre qui vient d'être achetée, soit les autres concupiscences, soit les bœufs qui viennent d'être achetés, le mariage qui vient d'être fait, comme des excuses pour ne pas s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Le démon craint par-dessus tout une âme qui communie. Parce qu'à ce moment-là, il prend sur lui la force de Dieu. La Sainte Eucharistie était appelée par les pères le pain des forts. Parce que c'est ça qui donne cette force spirituelle qui nous aide à dire non aux démons, à ses œuvres. Et donc il faut communier et ne pas se laisser rouler par le démon qui va nous pousser à ne pas communier. Vous savez qu'il y a eu certaines hérésies dans l'histoire de l'Église qui ont poussé justement les gens à s'éloigner en quelque sorte, s'éloigner de la Sainte Eucharistie, le démon craignant plus que tout la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans une âme. Et donc, il va tout faire pour pousser les gens à ne pas communier. Alors, bien sûr, il y a aussi l'hérésie contraire, en quelque sorte, qui pousse les gens, au contraire, à communier un tas de péchés mortels. Donc, il faut éviter les deux hérésies, d'un côté comme de l'autre. Souvent, par exemple, on entend, c'est une réaction que j'ai souvent entendue de fidèles qui comprenaient mal ces choses-là, qui me disaient, mais monsieur l'abbé, je ne me sens pas digne de communier. Et c'est vraiment une tentation sous apparence de bien, parce que si vous attendez d'être digne pour communier, vous pouvez attendre longtemps. Personne n'est digne de communier, strictement parlant, même la Sainte Vierge Marie elle-même n'était pas digne de communier. Et donc, c'est cette attitude, cet état d'esprit, ce que j'appelle un état d'esprit janséniste. C'est pour cela que c'était Saint François de Sales, Saint Antoine Marie Claret aussi, et d'autres saints qui appelaient ce jansénisme l'hérésie de glace. C'est tout à fait ça, c'est une hérésie qui frigorifie l'âme, qui devient tellement frileuse qu'elle n'ose plus s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de gens qui soient nourris, de catholiques qui soient nourris avec ce pain d'effort qu'est la Sainte Eucharistie. Donc demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses-là, parce qu'elle, elle a été unie avec notre Seigneur Jésus-Christ de façon extraordinaire pendant 9 mois. En 9 mois, elle a été un tabernacle vivant, dans le Saint-Sacrement, dans la maison de Bethléem, constamment dans le corps de la Très Sainte Vierge Marie, qui tenait en son sein le Créateur du ciel et de la terre, Sauveur du monde, tout petit enfant, dans le sein très pur de la Très Sainte Vierge Marie pendant 9 mois, et après ça, encore pendant 33 ans, elle est restée auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour le guider, c'est comme sa mère, elle s'est occupée de lui physiquement, jusqu'au moment où, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ physique a été remplacé par le Christ mystique. Donc l'enfant physique, elle l'a perdu par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, mais juste avant de mourir, qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur à notre Sainte Vierge Marie? Il a dit au pied de la croix, « Mère, voici ton fils !» Et il désignait Saint Jean. Saint Jean qui venait d'être ordonné prêtre, qui venait d'être consacré évêque. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ a dit à notre Sainte Vierge Marie, vous allez perdre votre fils physique, et vous allez remplacer votre fils physique par mon corps mystique, l'Église. On retrouve ce même mariage spirituel dont je vous ai parlé au début du sermon. Donc, notre Sainte Vierge Marie, elle a un rapport tout à fait particulier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque maintenant son corps physique est au ciel, même si c'est un corps mystique, le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est au ciel, attention, et au ciel avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, notre Sainte Vierge Marie étant elle-même au ciel, elle est toujours mère de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Ce qui lui donne un pouvoir énorme sur le cœur sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie, à cause justement de ce pouvoir extraordinaire, qu'elle nous aide, qu'elle nous donne la force du bon Dieu, qu'elle soit l'intermédiaire, parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces, l'intermédiaire par lequel la grâce du bon Dieu puisse passer pour nous renforcer. J'aime beaucoup l'expression des pères de l'Église qui expliquaient ce point de doctrine en utilisant un mot très particulier, l'aqueduc. Il disait que la Très Sainte Vierge Marie était l'aqueduc. Saint Bernard a des sermons magnifiques sur le sujet. L'aqueduc, c'est le conduit qui mène l'eau de la source à la ville, la source à la maison. Et donc, c'est le conduit spirituel qui mène la grâce du bon Dieu depuis le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à notre propre cœur, notre Seigneur Jésus-Marie. Et cet aqueduc, le cœur immaculé de Marie, étant le conduit par lequel la grâce du bon Dieu, qui vient du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, passe par le cœur immaculé de Marie, passe par sa mère pour entrer dans notre âme. Donc, demandons-lui de pouvoir recevoir avec abondance toutes les grâces, justement, de ce cœur, mais ce cœur immaculé de Marie, de ce cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons suffisamment forts, pour que nous soyons capables, avec la grâce du bon Dieu, l'aide de notre Seigneur Vierge Marie, de dire non à toutes les miasmes du monde moderne, pour nous préserver la corruption de ce monde moderne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.